et Lucien Rogard qui se cachent derrière ce pseudonyme. Si un chercheur s'intéresse au genre et aux acteurs de la culture dite de masse, c'est-à-dire à un ensemble dont la légitimité scientifique est souvent mise encore aujourd'hui en question, il peut parfois être surpris par ses découvertes. Tel a été mon cas. Depuis un certain temps, je m'intéresse à l'histoire du récit policier hongrois, et comme c'est un genre dont l'histoire est mal connue, il faut aller à la recherche des textes et des auteurs. C'est ainsi que je suis arrivé à un nom énigmatique, Louis-Lucien Rogard, et à ses 8 romans policiers publiés entre 1934 et 1937 dans la collection Az Athénaeum Detective és Kalandorregényei sous ce pseudonyme. Tout semble indiquer que, comme d'habitude, c'est le traducteur qu'on peut considérer comme l'auteur. On range ainsi ses romans sous le nom d'un certain László Pacsér. Cependant, 4 de ses romans existent en traduction française, 1 en traduction anglaise, et un de ses romans a été l'objet d'une adaptation cinématographique en 1936 à Hollywood. Un tel succès pour un auteur hongrois des années 30, dont on ne sait à peu près rien, peut intriguer à juste titre. Sur certains sites d'Internet, l'auteur était considéré comme français, avant de redevenir, au fil des contributions des amateurs éclairés, hongrois, ou plus exactement, de devenir ce qu'il a toujours été, le pseudonyme de 2 immigrés hongrois qui ont vécu et travaillé ensemble en France. Pour retracer leur histoire, il fallait faire une enquête. J'ai déjà présenté une première étape de mes recherches il y a 3 ans, au moment d'un colloque qui a eu lieu à Nagyvárad. Le présent colloque est un cadre idéal pour présenter la suite de ce travail, le résultat des recherches que j'ai pu récemment mener dans les archives et les bibliothèques parisiennes. Cette communication, tout en essayant d'inscrire la carrière des 2 auteurs dans le contexte européen des années 30, a l'intention de reconstruire les étapes de leur œuvre. Ce pseudonyme, Louis-Lucien Rogard, cache donc 2 auteurs, Acél László et Aigner László, qui sont devenus en France, respectivement, Louis Acél et Lucien Aigner. On peut retrouver facilement la trace d'Aigner, le plus connu de nos 2 mal connus. Il est devenu un célèbre photographe pour des photos qu'il a prises des personnalités comme Einstein, Gandhi, Churchill ou Mussolini. Ce dernier, il a réussi à le photographier en train d'éternuer, une photo qui est devenue l'une de ses plus connues. Aigner est né en 1901 à Eschweiler, dans une famille juive, et il est mort aux États-Unis en 1999. En revanche, préciser les données sur Louis Acél exige de fouiller plus. Selon les archives de la police parisienne, qui se sont révélées une source importante, il est né en 1896 et non en 86, comme on le croyait jusqu'ici, ce qui supposerait d'ailleurs une différence d'âge sans doute trop importante entre les 2 amis. Il est né à Budapest dans une famille juive et il est mort, selon toute vraisemblance, déporté dans un camp de concentration en 1944. Ils se sont rencontrés d'abord à Berlin. Aigner commence à travailler avec Stefan Lorin, un autre émigré hongrois qu'on a également oublié et de qui il faudrait pourtant se souvenir parce qu'il était un des initiateurs d'un nouveau type de presse, la magazine illustrée, recourant à la photo. Acél et Aigner deviennent ensuite les journalistes de Az Est, le journal d'Andor Miklós, puis ils quittent la Hongrie pour Paris. Selon les archives de la police, Acél arrive en France en novembre 1923, où il réside successivement d'abord à Saint-Maur, ensuite à la rue Bonaparte, rue Mazarine, rue de Tournon, et enfin 48 rue Madame. Tout semble indiquer qu'il retourne en Hongrie en 1934. Aigner arrive à Paris un peu plus tard, en suivant James Abbey, le photographe américain, avec qui il a travaillé en Hongrie à la demande de son patron, Andor Miklós. Contrairement à Acél, qui ne semble pas s'intéresser à la photographie, Aigner se trouve parmi les premiers qui commencent à faire des photographies avec des appareils Leica. Selon Daniel Lennertz, un historien des magazines belges, Aigner achète cette marque sur les conseils de son ami photographe Keith Rosser. Il s'agit d'un appareil qui permet d'aller au plus près de l'événement et de faire des photographies dans des conditions difficiles. Il est intéressant de citer les archives de la police pour voir comment les autorités décrivent Aigner. En 32, petit, brun, avec une petite moustache anglaise, 28-32 ans, beaucoup de toupet, se glissant partout, on le voit dans toutes les réunions politiques. Ensuite, en 40, dans un autre dossier consacré à lui, petit brun fluet, type sémite accusé, petite moustache, grand front, parle le français à la perfection. Il arrive en France le 10 octobre 1924. Sa mère et sa sœur le suivent en 29. En 32, il épouse à Paris sa compatriote Anna Lehnart, avec qui il habite à partir d'octobre 1934 au 69 bis rue Brancion, au 7e étage, jusqu'à juin 1940, moment où il quitte définitivement la France. C'est à cette adresse que se trouve le siège de son agence Parallèle Presse. Avant, il a successivement résidé aux adresses suivantes, selon une ordre chronologique probable. D'abord à Nogent-sur-Marne, ensuite à l'intérieur de Paris, boulevard Gambetta, rue de la Convention, rue Plumet, etc. Du décembre 1930, il loue avec Ratier un appartement pour 400 francs par mois au 48 rue Madame, dans lequel l'une des chambres fonctionne comme le bureau de leur agence de presse, l'autre comme chambre à coucher d'Hatzel. De ces informations, on peut tirer plusieurs conclusions. L'histoire de leur agence est liée à deux appartements, l'un à celui qui se trouve à la rue Madame, qu'ils louent ensemble de décembre 1930 jusqu'à 1934, c'est la durée du travail commun des deux années à Paris. L'autre se trouve à la rue Brancion, où Aignard vit avec sa femme. De cette époque, Aignard travaille avec d'autres collaborateurs. Mais comme les traductions françaises des romans paraissent sous le pseudonyme de Louis-Lucien Roger, et c'est soit Parallèle Presse, soit Hatzel et Aignard ensemble qui apparaissent comme les propriétaires des droits, leur collaboration semble continuer de distance. Sur ce point, on n'a que des hypothèses. Hatzel seul semble être l'auteur des 8 romans en hongrois. Aignard semble l'aider à en publier en France, mais est-ce Aignard qui les traduit ou les fait-il traduire? Donc on n'a sur ce point que des questions. Nous avons donc deux collaborateurs, l'un Aignard, plus médiatisé, plus connu, qui est le responsable à la fois des textes et des images, et Hatzel, plus discret, énigmatique, qui ne s'intéresse qu'à l'écrit. Le fait qu'il rentre de la France en Hongrie peut surprendre, surtout au moment, au milieu des années 30, où ce trajet se fait plutôt en sens inverse. Nous avons quand même un petit texte, un paratexte en fait, qui accompagne la réédition d'un des romans par la maison d'édition Tonaï. On trouve ici des informations sur l'auteur qu'on peut, faute de mieux, rapporter à Hatzel. Après l'école, il avait participé à la Première Guerre mondiale, puis avait mené une vie aventureuse, je cite, non pas d'une manière consciente, mais plutôt poussée par son destin, par son sang. Fin de citation. Il vivait dans ce qu'on appelle le milieu parisien, qui lui a procuré la matière de ses romans. Effectivement, de 23 jusqu'à 30, le début supposé de sa collaboration avec Wagner, il y a une période de 7-8 ans pendant laquelle il a dû mener une vie de bohème. En l'absence d'informations, rien ne nous autorise à ne pas prendre au sérieux tout ce qui est dit dans ce petit texte. Nous avons deux noms renvoyant à jamais à cette collaboration, Parallèle Presse, leur agence, nom construit, semble-t-il, à partir des premières et dernières lettres de leur nom, Aigner, A-R et Hatzel, A-L, et leur signature à partir cette fois de leur prénom, Louis et Lucien. En revanche, je n'ai aucune idée sur la provenance de ce mystérieux nom, Roger. Dans un deuxième temps, voyons en quoi consistait leur travail commun. Le premier ensemble comprend la publication des reportages. Parallèle Presse et ses différents collaborateurs ont contribué essentiellement à Vue, le magazine de Lucien Fogel fondé en 1928 sur l'utilisation massive et très créative de la photographie, en initiant en France un nouveau genre journalistique, le photoreportage, rendu possible entre autres par des innovations techniques comme la rotogravure. Le nom de l'agence apparaît pour la première fois en 1931 et on le retrouve jusqu'à 1939. Ce genre, fondé sur la combinaison de deux codes, l'image et l'écrit, sera plus tard théorisé par Aigner. Et dans son optique, les deux codes sont à la fois nécessaires pour produire un effet, l'un, en l'occurrence l'image, n'étant pas subordonné à l'autre. En 1931 et 1939, le nom de Parallèle Presse apparaît 94 fois sur les colonnes du magazine. En 1932, il y a déjà plusieurs reportages qu'ils signent ensemble. Le premier sur Marconi est signé Axel Aigner. Axel pour Hatzel, peut-être donc un signe d'hésitation dans la signature. D'autres portent déjà la signature définitive Louis-Lucien. On constate la prédominance des termes politiques reportage sur l'assassinat de Doumer, l'élection du nouveau président. On trouve plusieurs reportages consacrés à la conférence pour la réduction et la limitation des armements qui a eu lieu à Genève et dont la matière a également été publiée sous forme de livre en grand format avec une préface signée Pertinax. 1933 est l'année la plus féconde avec 21 reportages dont les thèmes sont très divers, politiques mais aussi école, vacances, jeux, vie de société. Il publie une série sur le quartier latin avec la collaboration d'André Cartes. Dès 1934, il y a de moins en moins de reportages signés Louis Lucien. Cela correspond, on l'a vu, avec le retour d'Atzil en Hongrie. Aigner, quant à lui, commence à travailler pour le petit journal L'Intransigeant. Plus tard, il semble ne pas réussir à retrouver la même position qu'auparavant sur le terrain du photojournalisme, où la concurrence est devenue plus grande. Aigner travaille seul comme envoyé spécial, souvent en exclusivité. À part les reportages politiques, il photographie aussi des célébrités comme Menuhin ou Marlène Dietrich. Ces photos seront souvent l'objet des montages humoristiques dus à l'activité des assistants du magazine. À partir de 1937, parallèlement à son contrat avec Life, il y a de plus en plus de matière américaine, des photographies sur LaGuardia, le maire de New York, ou un reportage sur la mer de Roosevelt. De 1931 à 1937, 16 reportages de Arab Press, sont publiés dans un autre magazine de l'époque, Adam, destiné aux hommes, dans des thèmes aussi variés que la mode, l'hygiène, le tourisme, la vie de société. On peut observer des parallélismes. Certaines matières sont exploitées ici et là, la conférence de Genève, ou le reportage à Stresa, où Aigner réussit à photographier Mussolini de très près, mais l'image qui le représente éternellement n'est publiée ni dans Vue, ni dans Adam. Il est également à noter que les reportages d'Arab Press paraissent aussi en Argentine, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Danemark, en Allemagne, en Angleterre, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et aux États-Unis. Selon une bibliographie établie d'après les mémoires non publiées d'Aigner et qu'on peut consulter sur Internet, après le départ d'Aigner et de sa famille en Amérique, c'est sa sœur et le mari de celle-ci qui déménagent dans l'appartement de la rue Brancion et s'occupent des affaires de la presse. Selon la légende entretenue par Aigner lui-même, une valise pleine de négatifs serait restée dans l'appartement et c'est son frère, Étienne Aigner, qui deviendra un créateur de sacs à main et de produits de maroquinerie, qui l'aurait emmené avec lui pour la vendre au photographe, qui ne l'ouvrira qu'au début des années 70 pour commencer à classer cette matière énorme et importante. Je passe la partie sur les romans pour passer au contexte, l'analyse du contexte. Atzil et Aigner représentent un itinéraire typique. Né sous la double monarchie, ayant une ascendance juive, il quitte la Hongrie pour bâtir une carrière dans le journalisme ou les arts en Europe de l'Est. En ce qui concerne le contexte hongrois, Atzil et Aigner continuent la tradition établie par des journalistes hongrois d'origine juive. En Hongrie, la presse fonctionnant selon les critères économiques devient de plus en plus répandue après le compromis avec l'Autriche, époque qui correspond à la naissance des genres journalistiques nouveaux comme le reportage. Le résultat de cette évolution est qu'au début du XXe siècle, le reporter n'était pas seulement le représentant d'un genre, mais métonymie emblématique du journaliste. Selon les témoignages, dans l'implantation du genre en Hongrie, les journalistes juifs ont joué un rôle déterminant. Les phrases de László Csarnoki sont significatives à cet égard. Je cite « Ensuite, les juifs ont fait leur apparition et avec eux, les rédactions sont devenues pleines de vie et d'animation. Tandis que nous, chrétiens, voulions nous décharger d'une manière sournoise pour le reportage ou la politique, sur un autre, comme nous aspirions tous à la littérature agréable ou à la critique théâtrale élégante, sans quitter nos cercles d'habitués, les jeunes juifs ont fiévreusement arpenté la ville, ils étaient partout, ils savaient tout, le responsable de la rubrique politique a passé toute sa vie au Parlement ou dans les cercles politiques, ils ont créé ce qu'on peut appeler l'interview, qu'on ne connaissait que de la presse étrangère, et ils ont promu la rubrique économique qu'il ne valait pas de bricoler parce que personne ne la lisait, au rang de rubrique la plus importante. Les Juifs ont commencé à se rendre à l'étranger, ils ont créé les relations internationales de la presse. en allemand, ils ont rattaché la presse hongroise à la presse européenne. József Vécsi, Isidore Barna, Sándor Brown, tous les trois juifs ont été les créateurs de la nouvelle presse hongroise. Fin de citation. L'aboutissement de cette tendance est la fondation de Az Est en 1910, dont le fondateur Andor Miklós était le descendant d'une famille juive pauvre. Aigner et Atzel sont liés à cette entreprise de plusieurs manières, comme journaliste et pour Atzel comme romancier, parce que ses romans allaient être publiés par la maison d'édition Athénaeum, dont le propriétaire était Andor Miklós. En effet, l'activité d'Atzel et Aigner représente un paradigme dont les caractéristiques, être partout, se renseigner sur tout pour tout comprendre, correspond au paradigme indiciaire identifié et décrit par l'historien italien Carlo Gimbo. Dans ce processus, l'enquête est inséparable du processus de témoignage et d'archivage, rendant possible la coexistence ou le mélange des genres, reportages et récits policiers, des codes, écrits et images et des médias. Il est évident que l'activité d'Atzel et Aigner s'inscrit aussi dans un contexte international. Leur histoire est une histoire de succès, ainsi ne peut-on qu'être frappé par l'oubli qui a englouti leur activité. Les années 20 et 30 peuvent être considérées comme une nouvelle période de la culture médiatique, de plus en plus globalisée, caractérisée par la stabilisation des nouveaux médias, cinéma, radio ou des formats comme le magazine. Dans la civilisation occidentale, on consommait désormais les mêmes informations en même temps. À part la transmission des informations, il était désormais possible de transmettre vite les images, ce qui allait avoir une incidence sur l'évolution de la presse périodique. Aigner et Atzel publiaient leurs travaux dans les magazines, exemple parfait de la réorientation visuelle de la presse, vue fondée par Lucien Fogel, qui devait paraître entre 28 et 40, et dont le titre référait déjà à la vision, est un des premiers hebdomadaires à utiliser massivement la photographie. En même temps, on peut observer que la littérature elle-même commençait à faire des expériences à travers l'utilisation de la photographie pour produire des formes hybrides, photoroman ou cinéroman. Tout ceci signifie que le processus de perception, compréhension et archivage se déroulait dans un espace de plus en plus globalisé. L'activité d'Aigner et Atzel et de bien d'autres illustre à merveille cette tendance. Le fait que les deux Hongrois étaient en parfaite correspondance avec les tendances européennes peut être prouvé par un exemple. Le romancier d'origine belge, Georges Simenon, a publié sous son vrai nom entre 31 et 34, 19 romans par la maison d'édition Fayard, avec comme personnage principal le commissaire Maigret. En même temps, Simenon publia aussi un photoroman et entre 31 et 35, il voyageait d'abord en France, ensuite en Europe et enfin autour du monde pour enregistrer ce qu'il voyait sous forme d'images et de récits. Ces reportages, qu'on peut considérer plutôt comme des récits de voyage que des enquêtes d'investigation journalistique, ont été publiés dans les colonnes de Voilà ou de Marianne. L'entreprise menée par Simenon coïncidait tout à fait avec celle menée par Aigner et Atzel. À partir de 1939, pour fuir aussi la guerre, Aigner allait travailler aux États-Unis selon son contrat avec Light, et Atzel sans doute trouvait la mort dans un camp de concentration. En Hongrie, Atzel tombe dans un oubli presque total, mais on parle guère plus de son partenaire Aigner. Parmi les photographes photojournalistes d'origine hongroise, ce sont plutôt les noms de Kappa, Kertész ou Brassai qui viennent à l'esprit que le sien. Aigner et Atzel, alias Roger, peut-être serait-il temps de les redécouvrir. Merci.